France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, triste tropique, l'aventure humaine. Chapitre 5, le succès qu'il n'attendait pas. Au cours des épisodes précédents, nous avons suivi Claude Lévi-Strauss dans ses missions en Amazonie, puis dans son exil aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. En 1955, 20 ans après sa première expédition, voilà qu'on lui propose d'écrire un livre sur cette expérience déjà ancienne pour une collection qui se lance. Cette collection, c'est Terre humaine, et son inventeur s'appelle Jean Mallory. Jean Mallory est géographe et ethnologue. En 1955, quand il contacte Lévi-Strauss, il est âgé de 33 ans. Pendant la guerre, il a été résistant et maquisard. Puis il a effectué plusieurs missions ethnographiques dans le Grand Nord, mais aussi dans le désert du Hoggar, au cœur du Sahara algérien. En 1951, le voilà au Groenland. Il mène une mission pour le compte du CNRS auprès des populations inuites, vit à leur côté, chasse avec eux, partage leur quotidien. Après quelques mois, il décide d'effectuer sur la banquise une expédition de géomorphologie, branche de la géographie qui étudie la formation des reliefs. Cela le conduit à partir en traîneau, avec deux accompagnateurs inuits, à travers une zone qui se trouve être interdite. Alors qu'ils progressent par une température pouvant descendre jusqu'à moins 60 degrés, ils arrivent aux environs d'un lieu-dit nommé Pitufik. C'est là qu'ils aperçoivent, au loin, en plein dans un désert de glace, des lumières. Tandis qu'ils se rapprochent, ils commencent à distinguer des bâtiments, des entrepôts. Puis ils voient des bateaux qui sont en train de débarquer, du matériel militaire et des engins de construction. L'expédition vient en effet de découvrir une base militaire américaine, un port classé secret défense et des infrastructures qu'aucune carte ne mentionne.
Nous étions sur le haut du glacier, nous avons découvert en effet, dans une baie, la baie de l'étoile polaire à Tulé, des avions qui, toutes les 10 minutes, atterrissaient et puis laissaient des troupes armées pour construire cette base nucléaire de Tulé. C'est pas 5000 hommes, c'est 10 000 hommes au cœur de ce territoire.
Les États-Unis ont en effet signé quelques mois plus tôt un traité avec le Danemark, pays qui contrôle le Groenland, les autorisant à bâtir cette base aérienne dans le contexte de la guerre froide. Depuis cette base, il sera possible aux Américains de lancer des bombardiers armés d'ogives nucléaires directement sur l'URSS. À son retour en France, Mallory décide de rendre public ce qu'il a découvert et prend fait et cause pour les Inuits dont le territoire a été violé.
Je ne veux pas intervenir dans ces grands problèmes de géopolitique. C'est la période de la guerre froide, Moscou, Washington, le monde libre, l'ONU. C'est vrai. Mais ce que je ne pardonne pas, c'est que l'Occident ait livré un peuple innocent qui ne demandait vraiment à personne d'être sentinelle de nos grands problèmes. Et on n'a jamais demandé l'avis de ces Inuits. J'étais présent, je l'ai vu, et je souhaitais précisément que avis leur soit demandé. Ceci ne fut pas fait.
Cette expérience est à l'origine d'un livre, « Les derniers rois de Tulé », ainsi que de « Terre humaine », sa collection aux éditions Plomb. C'est en effet dans cette collection que Mallory va publier son livre, même si « Triste tropique » va davantage marquer les esprits.
Ce qui me paraissait tout à fait important, c'était de révéler ces mémoires perdues. Cet immense peuple qui, depuis des décennies, depuis des siècles, fait l'histoire sans le savoir.
Le premier titre de la collection, c'est un Lévi-Strauss, c'est Triste tropique.
J'ai écrit à Lévi-Strauss, que je ne connaissais pas, mais que j'avais découvert, non pas par sa thèse, les structures élémentaires de la parenté, je ne suis pas structuraliste, et les structures parentales ne m'ont jamais passionné. mais par sa thèse secondaire, La vie familiale des Indiens Nambiquara. Et j'ai été aussitôt frappé par la discordance qu'il peut y avoir entre le style de cet ouvrage universitaire. Et pour moi, Claude Lévi-Strauss était universitaire. C'était un homme qui faisait des recherches très précises d'ethnologie. Et j'observais une discordance entre ce texte, entre cette écriture et les photographies. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait un autre homme.
Vincent Debanne, vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Genève, éditeur dans la Pléiade des œuvres complètes de Claude Lévi-Strauss, et vous réfléchissez notamment sur les liens entre littérature et anthropologie. Que retenez-vous pour commencer de ces archives qu'on vient d'écouter ensemble?
Je me souviens d'avoir entendu déjà cette archive où Mallory raconte que c'est la discordance entre les photos de la vie familiale et sociale des Indiens Nambiquara et le style universitaire du livre qui l'a conduit à contacter Lévi-Strauss.
C'est l'artiste derrière l'homme quand il termine en disant « j'ai senti qu'il y avait un autre homme ». C'est ça que ça signifie, non ?
Oui, c'est ça que ça signifie. C'est qu'il a, on peut vraiment faire crédit à Mallory d'avoir eu cette intuition-là, alors même quand qu'il était en train de fonder ou d'avoir l'idée en tout cas de cette nouvelle collection et il a vu juste et comme on a eu l'occasion de le dire dans un volet précédent, il saisissait aussi Lévi-Strauss à un moment où il était sans doute disponible pour répondre à ce type de sollicitation. Donc effectivement on peut faire crédit à Mallory d'avoir su percevoir et aussi sans doute faire surgir une forme de subjectivité de l'individu Lévi-Strauss qui n'avait pas trouvé à s'exprimer dans ses travaux anthropologiques jusque-là.
Il y a un style différent entre les deux hommes, puisque Mallory, on l'entend, était très militant. Peut-être aimait-il davantage prendre aussi la lumière que Claude Lévi-Strauss. Comment est-ce que vous les différencieriez ?
C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant. Alors évidemment, il faut faire sa part aux évolutions postérieures de l'un et de l'autre, mais c'est vrai que c'est vraiment pas du tout le même type d'homme, c'est pas le même type de savant, c'est pas le. Il y a une forme de. Bon, Mallory, c'était, il se concevait. Voilà, il aimait la lumière, comme vous l'avez dit. Il donne l'image de lui comme celle d'un héros voyageur, alors que Lévi-Strauss est quand même assez allergique à cette idée que du voyageur comme héros. Mais encore une fois, je pense qu'il y avait cette coïncidence, un peu ce moment, cette circonstance qui a fait cet alignement des planètes en quelque sorte, qui a fait qu'ils se sont trouvés l'un et l'autre et qu'ils ont chacun été précieux à l'autre pour Mallory pour sa collection, Lévi-Strauss précieux pour que Mallory puisse lancer sa collection et Mallory précieux pour Lévi-Strauss puisqu'il lui a permis d'écrire Triste Tropique.
Parce que probablement que sans cette commande de Mallory et sans la pression mise par Mallory pour que le livre se fasse très vite, l'idée même de Triste Tropique n'aurait jamais rien donné. Et la carrière, la vie de Lévi-Strauss et probablement aussi un peu de l'anthropologie, de la science anthropologique, aurait été différente.
Oui, ça c'est sans doute, c'est très vrai. Je pense qu'il n'y avait pas chez Lévi-Strauss de tentation autobiographique. On n'en a pas la trace. Par contre, il y avait quand même une tentation littéraire, puisque Triste Tropique, comme vous le savez peut-être, c'est un titre qui est ancien, qui date en fait des années 30, et qui était le titre que Lévi-Strauss envisageait pour un roman qu'il aurait écrit, inspiré de ses expéditions ethnographiques. Donc il y avait une tentation, disons, sans doute littéraire chez Lévi-Strauss, mais qui n'est pas non plus d'une originalité folle. Enfin, souvent, les voyageurs, et en tout cas dans les années 30, partent avec l'idée qu'ils vont revenir avec un récit, un roman, que sais-je. Là où Mallory a eu, comment dire, une influence importante, c'est quand il a eu cette idée que c'était pas le roman qu'il fallait que Lévi-Strauss écrive. C'était véritablement cette autobiographie intellectuelle qui est Triste Tropique.
Ouais. Alors c'était peut-être ça, justement, l'idée de Terre humaine. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'était que cette collection qui reste quand même légendaire et son importance au fond pour la vulgarisation de l'ethnographie?
Terre humaine, au fond, au début, quand Mallory la lance, c'est dans un contexte qui est celui du développement de l'édition en sciences humaines et sociales. Et au fond, en réalité, quoique Mallory ne l'admettra pas, ou en tout cas, c'est pas l'histoire qu'il va raconter, mais au départ, son idée, c'est de faire une collection de récits de savants voyageurs. Et il dit quelque part...
Plutôt des savants ou plutôt des voyageurs?
Des savants voyageurs, c'est-à-dire en fait, il y a cette idée de résurrection du voyage philosophique. Hein, cette idée qu'on va, au milieu du XXe siècle, faire renaître cette tradition qui est du voyageur humaniste, qui est à la fois...
Point de Tocqueville, par exemple.
Voilà, Tocqueville, Bougainville, enfin, etc. Donc, il y avait cette idée-là. Et puis, en fait, et dans les faits, les premiers... Parce qu'au début, c'est une collection qui a des gros succès, d'abord Triste Tropique, bien sûr, mais aussi Les Derniers Rois de Thulé. C'est une collection qui semble initialement consacrée essentiellement à ce type d'autobiographie. Donc vous allez avoir les autobiographies de récits autobiographiques de Georges Condominas, de Georges Balandier, La Chronique des Indiens Guayaquis, un livre magnifique de Pierre Clastres. Et c'est à partir des années 70 que la collection Terre Humaine va changer un peu de visage et va se consacrer davantage aux témoignages autochtones. C'est-à-dire à l'idée qu'il faut recueillir ces voix, enfin des récits de vie et des voix qui sont vouées à disparaître, écrasées par la civilisation occidentale. Mallory, à cet égard, lui-même, est un peu à la frontière entre les deux, parce que lui, très tôt, il a cette idée qu'il faut aussi défendre le peuple inuit.
À l'origine de Triste Tropique, on l'a dit, il y a un roman jamais publié.
Triste Tropique, au départ, c'était un roman.
Oui.
J'avais décidé d'écrire un roman quand je suis rentré du Brésil, et j'ai commencé à l'écrire dans les quelques semaines qui se sont écoulées entre la date de mon retour et ma mobilisation pour la guerre. Parce que, avec un bon esprit d'opportunité, je suis revenu en France, exactement, pour me faire mobiliser. Mais j'ai très vite renoncé, parce que je me suis aperçu, au bout de 50 pages, que je faisais du très mauvais Conrad, et que... Bon, j'étais pas fait pour ça.
Conrad est un des auteurs que vous préférez ?
Oui, c'est un des auteurs dont je me suis toujours nourri, d'ailleurs, dès l'enfance. Et je dois dire qu'il, pour l'ethnologue, a quelque chose, enfin, indépendamment de ses énormes qualités littéraires, mais quelque chose de tout à fait prenant, parce qu'évidemment, Conrad a connu des populations ethnologiques, si je puis dire, à un moment charnière, enfin où subsistaient encore beaucoup des cultures traditionnelles et où, en même temps, déjà, elles étaient pénétrables et pénétrées par une civilisation mécanique qui n'était pas encore aussi agressif, si bien qu'il y a une sorte, je dirais, d'âge d'or, qui est l'âge conradien, où on pouvait, à la rigueur, s'imaginer bien qu'un équilibre pourrait se trouver, et que nous pourrions à la fois jouir des beautés et des enseignements que nous trouvons dans ces sociétés lointaines, sans leur apporter la destruction qui a été, hélas, notre œuvre.
De cette tentative romanesque, il ne reste dans Triste Tropique qu'un seul passage, la description d'un coucher de soleil qui figure dans le livre en italique. Olivier Daben, que retenez-vous de cette archive ?
Ce qui me frappe maintenant, c'est que en réalité... Lévi-Strauss écrit le roman Triste Tropique, ou projette d'écrire ce roman en 1939 à son retour du Brésil. En réalité, il a une autre tentative littéraire à la même époque, qui est celle d'une pièce de théâtre, enfin l'écriture d'une pièce de théâtre qui s'appelle L'Apothéose d'Auguste. En fait, j'ai, dans l'édition des œuvres de la Pléiade, j'ai réédité, en fait, c'est des bribes, évidemment, ce ne sont pas des ouvrages terminés. Mais donc, il y a ces projets littéraires inachevés. Alors, Lévi-Strauss a dit oui, mais bon, après, ensuite, il y a eu la guerre, et c'est vrai. Ce qui me frappe, c'est qu'au fond, il écrit Triste Tropique au retour des États-Unis, à un moment de réinstallation en France, comme il a tenté aussi d'écrire une œuvre littéraire au retour des expéditions du Brésil en 1939.
Et même parfois dans l'expédition elle-même, pendant des moments d'ennui, je crois.
Voilà, alors c'est ça. Donc l'Apothéose d'Auguste, enfin cette pièce, ce brouillon, ce projet de pièce de théâtre, il a commencé à être écrit sur le terrain, dans le Mato Grosso. Donc ce qui m'intéresse, enfin ce qui me frappe, c'est cette idée que dans ces moments... Parce que les ethnologues, on parle toujours de leur terrain, on parle toujours de leur départ, il y a beaucoup de littérature sur la question de l'expérience ethnographique, et finalement, il y a assez peu de choses sur l'expérience du retour. Or, la question du retour, pour les ethnologues, c'est vraiment une question centrale. Et c'est aussi souvent, du point de vue personnel, une expérience un peu traumatisante. C'est-à-dire que quand on a passé des mois très très loin de chez soi, confronté à une altérité très très grande, revenir à la civilisation, c'est à sa civilisation qu'on a quitté souvent, parce qu'on s'y sentait pas forcément à l'aise, etc. Cette expérience-là, elle est cruciale. Et que Lévi-Strauss se soit essayé à la littérature à chaque fois dans des moments de retour, je trouve ça très intéressant. Et j'ai l'impression, en un sens, que Tristesse tropique, en 55, accomplit un retour qui n'avait pas été complètement soldé en 1939 par l'écriture de ce roman inachevé et sans doute effectivement pas très bon.
Ce que vous voulez dire, c'est que par l'écriture de Tristesse tropique, Lévi-Strauss arrive à comprendre ce qui lui est arrivé ou... Et bien sûr, il le savait déjà, mais le fait de le mettre sur le papier, avec comme ça cette éruption pendant 4 mois d'une écriture à jet continu tous les jours, ça lui permet d'avancer et de solder ces années-là.
Absolument. Ouais.
Alors c'est étonnant qu'il n'ait gardé de son roman initial que une description de coucher de soleil, donc en italique dans le texte. Pourquoi, selon vous ?
Je pense que c'est assez intéressant parce que c'est un peu il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire qu'il donne un texte, c'est un exemple d'une tentative qui n'a pas abouti, mais il nous la donne quand même. En un sens, il aurait pu aussi ne pas du tout nous en parler.
C'est un document, en fait.
C'est un document, voilà.
Dans son
absolument. C'est comme un document sur... D'ailleurs, il le présente presque comme ça. Il dit c'est un document sur la naïveté qui était la sienne au moment où il est parti. Donc, il y a une dimension...
Regardez ce que je n'ai pas fait et ce que vous n'aurez pas.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de la mise en scène de l'apprentissage, si vous voulez, et aussi un souvenir de Proust. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on trouve... je pense que ce passage-là, cet extrait-là, il est très très inspiré du passage de La recherche du temps perdu dans lequel le narrateur insère un récit de coucher de soleil, Les clochers de Martinville, au début de Combray, sauf erreur.
Est-ce que l'aspect littéraire, très littéraire de Triste Tropique apporte à l'ethnographie quelque chose que l'ethnographie seule ne pourrait pas montrer ?
Tout dépend de ce qu'on entend par littérature. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'apporte... Triste Tropique, c'est l'écriture Triste Tropique va faire apparaître, en tout cas pour Lévi-Strauss, c'est une attention aux réalités sensorielles et sensibles qui, dans la suite de son travail, va devenir essentielle. C'est-à-dire que, au fond, comment fonctionne Triste Tropique ? Ça fonctionne, par association et analogie entre différents moments du passé. Et qu'est-ce qui font de l'analogie ? Très souvent, c'est une sensation commune. Une même odeur, une même ou des rapprochements un peu inattendus entre les habitations cookies et les chapeaux des femmes européennes, des choses comme ça. Donc il y a je pense que tous ces exercices un peu que permet la littérature par collage et rapprochement de ces morceaux hérités de différents moments de son passé, ce travail là qui est proprement littéraire, c'est aussi le travail de Proust en un sens quand il compare l'écriture de la recherche à un travail de couture entre différents morceaux. Ce travail proprement littéraire va, nourrir chez Lévi-Strauss une réflexion qui va devenir centrale dans La pensée sauvage, Le cru et le cuit, etc.
Donc ça veut dire aussi, d'une certaine façon, que la science, parfois, on la comprend mieux avec les outils qui sont les outils de la littérature.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les expériences que permet la littérature peuvent nourrir le savoir anthropologique, oui.
À la sortie, le livre connaît rapidement un assez grand succès. Claude Lévi-Strauss en est d'ailleurs le premier étonné.
Comment avez-vous accueilli le succès du livre, alors ?
Écoutez, je l'ai accueilli avec beaucoup de gêne, parce que dans, justement, la précipitation voulue où j'ai écrit le livre, c'était un manuscrit, d'une imperfection grammaticale, stylistique, j'avais fait des choses épouvantables. Quand le livre a eu un certain succès, alors je me suis dit, mais je ne peux plus rester là, et j'ai été obligé de refaire plus soigneusement une édition corrigée où j'essayais de rattraper toutes ces erreurs.
L'écho rencontré par le livre dépasse donc les attentes. Des jurys du prix Goncourt auraient même, dit-on, regretté de ne pouvoir le couronner, car le livre n'est pas un roman à proprement parler. Vincent Debanne, comment Lévi-Strauss a-t-il vécu la sortie de ce livre-là ?
Moi, je pense qu'il faut le croire quand il dit qu'il a été surpris, au fond, parce que quand il parle de culpabilité de se livrer à l'écriture autobiographique alors qu'il se conçoit comme un homme de science, mais il y a aussi la peur qu'au fond, ça reste... Il m'avait dit, au fond, j'avais vendu 800 exemplaires des structures élémentaires de la parenté, qui allait s'intéresser à mes souvenirs. Donc, il est surpris, je pense qu'effectivement...
Donc, il comprend pas exactement la portée de ce qu'il fait, quand même.
Non, voilà, je crois pas. C'est aussi ça qui se passe avec la littérature, c'est qu'en fait, on se livre, on fait une expérience dont on comprend, on connaît pas les tenants et les aboutissants. Donc, oui, il est surpris, il est... Et donc, voilà, il a cette espèce de remords parce qu'il s'aperçoit qu'en fait, il y a des fautes de style, des erreurs, des coquilles. Donc, il va corriger son manuscrit. Mais c'est qu'en fait, ce qu'il n'avait pas compris, c'est à quel point, en fait, sa réflexion allait rencontrer les inquiétudes de l'époque.
Et aussi, peut-être, le fait qu'il y a une certaine forme de suspense dans le livre. Et Triste Tropique, c'est un ouvrage qu'on a du mal à lâcher, tout simplement.
Oui, parce que c'est un livre qui est quand même écrit comme une quête. C'est-à-dire, au fond, donc c'est ça aussi qui est fascinant dans ce livre, c'est qu'en fait, il y a comme deux principes d'organisation. Il y a d'un côté l'effet de remémoration, dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais il y a aussi le fait que c'est une tentative pour aller, alors non pas au cœur des ténèbres, il parlait de Cora tout à l'heure, mais jusqu'à l'extrême point de la sauvagerie, c'est une expression du livre. C'est-à-dire le cœur du livre, bon, c'est quatre parties, hein, Kaduveo, Bororo, Nambiquara, Tupikawai, mais le Nambiquara, c'est vraiment l'extrême point de la sauvagerie. Ce sont des populations qui d'abord vivent dans un état dans un état social très, ou technique très rudimentaire. Ils connaissent pas le hamac, ils connaissent pas la poterie. Et puis par ailleurs, Lévi-Strauss à l'époque imagine que les Nambiquara, ce sont des très anciens habitants du Brésil, antérieurs même aux Tupis qui occupaient les côtes au moment de la découverte, de la conquête par l'Europe. Et donc, il y a cette idée qu'il va aller vers des populations absolument inconnu, préservé de tout contact avec les Blancs, avec la civilisation occidentale, ce qui arrive finalement auprès de cette petite population qui s'appelle les Mundé, qui est une population qui n'avait jamais été observée avant lui, sur laquelle on sait très peu de choses, même encore aujourd'hui, même si on sait un peu plus de choses aujourd'hui sur eux. Et donc, là, le suspense vient de là. Je pense qu'il y a cette idée qu'il va en direction de, toujours plus vers l'intérieur du Brésil, dans la direction de populations toujours plus autres.
Dans les milieux universitaires, les réactions à la sortie du livre sont contrastées. Je vous ai parlé au premier épisode de Paul Rivet, le directeur du Musée de l'Homme. C'est lui qui a permis en quelque sorte à Claude Lévi-Strauss de partir au Brésil, car il a œuvré pour relancer les recherches en ethnographie et Lévi-Strauss a bénéficié de cet élan. Pourtant, Paul Rivet ne semble pas très heureux du succès de Triste Tropique, comme le dit Claude Lévi-Strauss dans un entretien avec Jacques Chancel en novembre 1988.
Alors, je reviens un tout petit peu à Triste Tropique parce que l'accueil a été très chaleureux dans les milieux littéraires, mais il l'a été beaucoup moins dans les milieux ethnologiques.
Je ne peux pas dire qu'en général. Mais enfin, à cette époque-là, j'étais très près de Paul Rivet, le fondateur du Musée de l'Homme. J'avais été sous-directeur du musée et pratiquement directeur en exercice pendant l'interrègne après la retraite de Rivet. Et Rivet recevait le dimanche après-midi et religieusement, j'allais tous les dimanches chez mon bon maître. Et le jour où apparu en Triste Tropique, quand je m'ai envoyé un exemplaire, il m'a dit « je ne reçois plus le dimanche ». Bien entendu, il recevait toujours.
Ouais. C'est-à-dire qu'il vous fermait sa porte.
Il m'avait fermé sa porte.
Du côté de la critique littéraire, le livre polarise également. Voilà ce qu'en disent par exemple les critiques du Masque et la Plume au cours de l'émission du 22 janvier 1956.
Malheureusement, Lévi-Strauss n'est pas un écrivain, c'était un savant. C'est un homme qui a fait de grands ouvrages scientifiques et qui, là, a voulu faire œuvre d'écrivain. Alors là, je ne crois pas, justement, que, contrairement au cas de Michel Héris, je ne crois pas que son style colle exactement à ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que, de temps en temps, il se laisse aller à écrire comme un homme qui n'a pas l'habitude d'écrire croit que l'on doit écrire. C'est-à-dire, j'exagérerai en disant qu'il a un style pompier. Non, ce serait faux. Mais tout de même qu'il y a une espèce d'amplification, qu'il y a des phrases qui sont beaucoup trop longues et qui s'équilibrent mal. Bref, il y a tout de même beaucoup de maladresse dans son livre. C'est ce qui le rend d'ailleurs sympathique, mais je trouve que c'est un livre maladroit d'un point de vue strictement d'un écrivain.
Marcel Moussy.
Moi, je ne suis pas tout d'accord. Je trouve qu'au contraire, c'est d'une habileté consommée. Et la première phrase, déjà, commence à introduire cette habileté. En effet, on ouvre ce livre, on voit « je hais les explorateurs », n'est-ce pas ? On est un petit peu déçus, il faut bien le dire, parce qu'on a tous envie de lire des livres d'explorateurs. Et ceux qui sont très mal écrits et que nous déplorons tous, nous les avons tout de même lus, plus ou moins, je dirais pas en cachette, mais enfin, on les a lus, n'est-ce pas? Ils étaient très mal écrits, très mal faits, par des gens qui nettement en remettaient effrontément.
Et généralement rivalité.
Or, ce besoin, justement, de livres, d'aventures, de dépaysement, va être parfaitement satisfait.
Vincent Debanne, que vous inspire cette archive?
Je trouve que c'est révélateur. Bon, globalement, il est assez faux que le livre a suscité des critiques. Globalement, la critique est extrêmement élogieuse. Et puis, elle est donc à la fois dans la presse quotidienne, régionale, dans la presse hebdomadaire, même dans les revues, évidemment dans les revues littéraires intellectuelles. L'ouvrage est vraiment très très vite reçu comme une sorte de chef-d'œuvre. Mais je trouve que les réticences du critique, là, je sais pas qui c'est. Je pense qu'elles sont révélatrices, ces réticences-là, parce qu'elles montrent quand même aussi le caractère en quelque sorte un peu décalé de l'écriture de Triste Tropique. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est 1955, on est bientôt, voilà, c'est l'époque où la création littéraire, elle est incarnée par Samuel Beckett, on va bientôt parler du nouveau roman dans la deuxième moitié des années 50, de tentatives d'écriture très expérimentales, formelles, etc. Et Lévi-Strauss, il arrive avec cette phrase très 19e, alors pompier, je pense que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas un adjectif qui est pertinent, mais il y a une sorte de souvenir de Chateaubriand, il y a une souvenir d'une prose très majestueuse qui effectivement soigne ses chutes de phrases. Et donc, je pense que la réticence de l'époque, elle est intéressante parce qu'elle montre aussi que le livre, il est en quelque sorte, c'est un peu un aérolithe. Il tombe dans un paysage, bon d'abord c'est pas un écrivain en titre, enfin c'est quand même quelqu'un qui s'il est connu, quand il est connu, c'est comme savant. Et c'est un livre qui se démarre complètement de la production littéraire de l'époque.
De toute façon, il faut que nous arrêtions cette discussion parce que je m'étais promis de ne pas dépasser une demi-heure. Si vous me permettiez, je voudrais lire 20 lignes, si ça ne vous paraît pas trop long, qui sont les 20 dernières lignes du livre. En deçà de la pensée et au-delà de la société, dans la contemplation d'un minéral plus beau que toutes nos œuvres, dans le parfum plus savant que nos livres, respirer au creux d'un lys, ou dans le clin d'œil alourdi de patience, de sérénité et de pardon réciproque qu'une entente involontaire permet parfois d'échanger avec un chat. Je trouve pour ma part assez beau qu'un livre d'ethnologie se termine sur le mot « chat ».
Vincent Debanne, sur cette dernière phrase qui est assez compliquée à comprendre.
Oui, elle est très compliquée. Il faut vraiment la lire crayon en main. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui va finalement imposer Triste Tropique comme un classique et comme un monument et comme un chef-d'œuvre, c'est tout simplement ces passages. C'est-à-dire que très très tôt dans la réception, et là on le voit très bien ici, des formules s'inscrivent dans les esprits et il y a on cite très très vite des passages entiers et même Raymond Aron dans le compte-rendu qu'il donne du livre le soir de Noël 1955, il dit qu'il faut résister à la tentation de citer. Et donc
pourquoi?
Parce qu'il y a une tentation de la citation. On a l'impression d'une pensée qui a vraiment trouvé sa forme accomplie, d'une beauté souvent prodigieuse.
Quand on cite, c'est que c'est parfait, non?
Voilà, c'est quand on cite, c'est que c'est parfait. Et donc, je pense que la place de Triste Tropique dans les mémoires, elle tient aussi à ça, à ces morceaux de prose qui sont effectivement des incarnations de la perfection formelle, ouais.
Triste Tropique est l'ouvrage le plus célèbre de Claude Lévi-Strauss, mais il est loin d'être l'unique. Il n'en reste pas moins celui qui a eu l'écho le plus large et peut-être l'influence la plus importante. Mais quel est son héritage aujourd'hui et quelle a pu être précisément cette influence? C'est ce que nous allons voir maintenant au cours du dernier épisode.